Christ est ressuscité. Ce matin, je voulais vous parler de ce pourquoi nous avons été créés. On a été créés pour vivre pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors on a certainement bien conscience d'avoir été créé par lui, mais est-ce qu'on a aussi conscience d'avoir été créé pour lui? Pas pour notre satisfaction, pas pour notre vie, pour lui. Il nous est dit aussi, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est pour ça qu'on a été créés. Pour servir à la louange de sa gloire. Et c'est pour ça qu'il nous est dit aussi, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits de lèvres qui confessent son nom. Dieu détermine toujours le but d'une chose avant de la créer. Le sage nous dit dans les Proverbes, l'Éternel a tout fait pour un but. Et le but de l'homme, c'est de glorifier Dieu. Malheureusement, l'homme, depuis le péché des origines, est incapable de réaliser ce but. Le péché, c'est bien ça, rater le but. En gagnant son indépendance vis-à-vis de Dieu, l'homme a perdu le sens de sa vie, le but de sa vie. Et livré à lui-même, loin de Dieu, l'homme est incapable de faire ce que Dieu attend de lui. David décrit cet état dans le psaume 53. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors si vous aviez encore des doutes, c'est raté. Au lieu de servir Dieu dans la liberté, l'homme est devenu esclave de ses désirs, de ses mauvais désirs. Et Paul, quand il parle aux Romains, il parle aussi de cet état de misère. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas ce que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Or, cette misère que nous décrit Paul, là, est d'autant plus grave qu'on ne peut rien faire pour s'en délivrer. On ne peut pas se racheter, on ne peut pas réparer son péché, se réconcilier avec Dieu, son Créateur. Mais alors, d'où vient le secours pour l'homme? Qui pourra libérer l'homme de ce mal-être? Un mal-être causé par le péché comme un corps étranger qui souille et infecte l'homme dans sa relation avec Dieu. Un mal-être causé par le péché comme sentiment de culpabilité et de honte de l'homme devant le Dieu saint, qui pourra secourir l'homme? Seul Dieu peut arracher l'homme à l'esclavage du péché et l'amener à vivre à nouveau pour sa gloire. Et Dieu le fait grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est la conclusion de Paul quand il répond à sa question « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, il y a plusieurs mots ou expressions clés qui résument bien l'œuvre de Jésus-Christ pour sauver l'homme de la malédiction du péché. Et en ce jour de Pâques, je veux en mentionner deux. Tout est accompli et il est ressuscité. Tout est accompli, c'est une des paroles, des sept paroles que Jésus-Christ a prononcées sur la croix. Mais avant la croix, il y a eu tout un parcours de Jésus et sa condamnation. Alors, je vais vous rappeler un peu la vie de Jésus. C'est peut-être inutile, mais ça fait toujours du bien. Après 3 ans d'un puissant ministère d'enseignement et de miracles, Jésus monte à Jérusalem, selon la coutume des Juifs, pour y célébrer la Pâque. Et cette fête rappelait aux enfants d'Israël leur délivrance de l'Égypte où ils avaient été esclaves. Et une semaine avant la fête, Jésus est acclamé par la foule quand il arrive à Jérusalem et qui crie « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Mais à peine entré dans Jérusalem, Jésus chasse les vendeurs du temple à coups de fouet. Alors cette entrée triomphale à Jérusalem et la purification du temple décident les chefs religieux à se débarrasser de lui. Ils complotent et Judas, l'un des 12 apôtres, le livre. Après avoir soupé avec ses disciples, Jésus se rend au jardin de Gethsémané où il a l'habitude de se retirer pour prier. Là, accablé par mon péché, par ton péché, par le péché de l'humanité, Jésus connaît une angoisse épouvantable. Dans sa prière, il accepte volontairement d'offrir sa vie en sacrifice. Il est écrit dans Matthieu, « Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et priant ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Et Jésus se laisse emmener sans résistance. Il l'a emmené chez le souverain sacrificateur, le chef religieux, puis devant Pilate, le gouverneur, puis devant Hérode, le roi des Juifs. Et Jésus subit alors les pires outrages, ceux qu'on réservait habituellement aux criminels. Il est condamné sans accusation valable et la foule, interrogée par Pilate, crie « Crucifie-le, crucifie-le !» Et là, Jésus est emmené à Golgotha. Il est cloué sur une croix avec 2 dangereux criminels. Et dans un geste d'ultime obéissance, Jésus, qui vient de boire le vinaigre, s'écrie « Tout est accompli. » Sa mission sur la terre s'achève. Alors on a décrit là le supplice de l'homme, Jésus. Ce supplice dont nous pouvons appréhender les souffrances. Mais est-ce qu'on peut imaginer les souffrances de Jésus, le Fils de Dieu ? Le Fils de Dieu dont le Père détourne le regard parce qu'il est chargé de mon péché, de nos péchés. Cette souffrance qu'il fait s'écrier, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus et son Père, qui ne faisaient qu'un depuis l'éternité, sont séparés, déchirés. Est-ce qu'on peut imaginer cette souffrance ? C'est la souffrance qui devait nous atteindre en étant séparés de Dieu pour l'éternité. Lorsqu'il était venu sur cette terre, Jésus avait pu dire « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Maintenant, il a achevé tout ce que le Père lui avait ordonné de faire. Jésus meurt, tout est accompli. L'œuvre de Jésus est parfaite, achevée. Il n'y a rien à y ajouter, à en retrancher. Notre confiance quant à notre salut éternel ne peut reposer ni sur nos actions, ni sur nos mérites, ni sur quoi que ce soit qui vienne de nous-mêmes, mais simplement sur le sacrifice de Jésus-Christ, parfait, complet, accepté par Dieu. Alors que toutes les religions qui sont dans le monde nous disent « faites pour avoir le salut, faites quelque chose ». Et Jésus proclame à la face du monde « tout est accompli ». Le genre de mort enduré par Christ n'est pas sans signification. La croix était maudite, non seulement par les hommes, mais par la loi de Dieu. Dans le Deutéronome, on lit « Celui qui est pendu au bois est objet de malédiction auprès de Dieu ». Christ a été une malédiction auprès de Dieu. Christ s'est placé sous cette malédiction. Ce que nous méritions, nous, a été transféré sur lui. Lui qui s'est offert pour expier nos péchés, pour mon péché, pour ton péché. Et on comprend ce que signifie la parole du prophète. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. En voulant effacer nos souillures, Jésus les a reçues sur sa propre personne, afin qu'il lui soit imputé. C'est ce qu'indique Pierre quand il dit que Jésus a porté nos péchés en son corps sur le bois. La croix nous montre qu'il a été chargé de la malédiction que nous avions méritée. Et en la recevant, il lui a enlevé sa force. Tout est accompli. Que le nom de Dieu soit béni. Tout est accompli, ça signifie aussi tout est achevé. Tout est fini. Pour les soldats, c'était fini. Il était temps de rentrer chez eux, ils avaient fini leur boulot. C'était fini aussi pour la mère de Jésus, pour Marie-Madeleine et pour les disciples. Ils avaient aimé Jésus jusqu'au bout. Ils allaient retourner dans ce monde. Ce ne serait plus jamais pareil. C'est fini aussi pour les prêtres et pour la foule. Ils pouvaient se féliciter les uns les autres. Ils s'étaient débarrassés de cet empêcheur de tourner en rond, de Nazareth. Tout est fini. Les soldats lui transpercent le côté. Ils le descendent de la croix. On place son corps dans un tombeau. On ferme le tombeau avec une lourde pierre. Tout est fini. Les disciples sont dispersés. Son œuvre semble anéantie. Mais le dimanche matin, tout change. Les femmes, selon la coutume des Juifs, s'apprêtent à embaumer le corps de Jésus. Mais c'est là qu'il y a un élément imprévu qui vient transformer le désespoir des disciples en enthousiasme et la victoire de ses ennemis en défaite. Jésus sort du tombeau au petit matin du troisième jour, du premier jour de la semaine. L'ange dit aux femmes, « Ne craignez pas. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Comment ne pas acclamer le ressuscité? Il est vivant. La dernière phrase, « Il est ressuscité ». Or, Jésus sort du tombeau au premier jour de la semaine. C'est pour ça que désormais, Tous les dimanches, les chrétiens fêtent ce jour de résurrection. Ce jour-là, Jésus a définitivement vaincu la mort. La résurrection donne un sens à la croix. Sans elle, sa crucifixion serait une défaite. Or, la croix, la crucifixion, fait partie du parcours vers la victoire. La croix, c'est une descente avant la grande élévation de la résurrection et de la montée de Jésus au ciel, vers le Père. Et là, nous revenons au début, libre enfin de vivre pour la gloire de Dieu. La mort de Jésus et sa résurrection nous apportent la liberté de vivre pour Dieu et pour sa gloire. Et cela à cause des bienfaits de la résurrection. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si nous croyons que Jésus est Seigneur, que nous croyons qu'il est vivant pour toujours, alors nous allons expérimenter au moins trois bienfaits de la résurrection. Ces trois bienfaits que j'ai notés changent notre vie et nous rendent réellement libres de vivre pour sa gloire. Le premier, c'est notre justification. Notre justification, c'est un bienfait qui est passé. Jésus, notre Seigneur, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est ce que Paul dit aux Romains. Jésus nous a rachetés, il a expié nos fautes, nous voilons donc en état de paraître devant Dieu. C'est fait. La justification, c'est l'acte par lequel nous sommes déclarés justes. Par cet acte, Jésus nous fait cadeau de sa justice pour que nous puissions être sauvés. Et ce bienfait libérateur a pris effet dans nos vies dès l'instant où nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. La justification, c'est pour tout enfant de Dieu un bienfait passé qui nous rend libres de vivre pour sa gloire. Alors le deuxième bienfait, c'est notre sanctification, et ça, c'est au présent. Paul dit que nous avons été unis avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection pour devenir capables de vivre une vie nouvelle. Par le baptême en sa mort, nous avons été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Alors, par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous justifie, nous donne le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien plus, il nous sanctifie. C'est-à-dire, il nous met à part pour Dieu et par son esprit qui vit en nous, il nous rend capables de cette vie nouvelle. Il suscite en nous un profond désir de vivre dans la sanctification, de rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est donc un bienfait présent de la résurrection qui nous rend libres de vivre pour la gloire de Dieu. Et enfin, le troisième bienfait de cette résurrection, c'est notre glorification, un bienfait futur. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, consacre tout le chapitre 15 à la résurrection. Après avoir réfuté les arguments de ceux qui mettent en doute la résurrection de Jésus, il s'écrit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » La résurrection de Jésus annonce notre propre résurrection. Si Jésus était resté au tombeau, comment pourrions-nous être sûrs que son sacrifice a été accepté par Dieu ? Mais maintenant, on sait que la mort est vaincue. Jésus-Christ est ressuscité. Cela est un gage certain de notre glorieuse résurrection future. Jésus disait « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Et c'est confirmé par Paul quand il écrit aux Romains « Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés ». La glorification, c'est un bienfait à venir de la résurrection qui nous rend libres pour vivre pour la gloire de Dieu. Tout est accompli. Il est ressuscité. Nous sommes libres de vivre pour la gloire de Dieu. Ayant été créé pour vivre pour sa gloire, le péché nous en a empêchés. Pire, le péché nous a rendus misérables, esclaves, loin de Dieu, sans Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est venu. Par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec Dieu et nous a rendus enfin libres, libres de vivre pour sa gloire. Or, pour conclure, tu es enfant de Dieu, choisi de Dieu ? Ton passé t'accuse-t-il, te condamne-t-il ? Christ est ressuscité. Avec Christ ressuscité, tu es déclaré juste devant Dieu. Tu es libre de ton passé. Jouis pleinement de ce bienfait et vis désormais pour le glorifier. Ton passé t'accuse-t-il, te condamne-t-il ? Ressuscité avec Christ, il te communique par sa puissance la vie de sanctification. Jouis pleinement de ce bienfait maintenant. Confesse ton péché et vis désormais pour la gloire de Dieu. Ton avenir te semble-t-il incertain ? Le lendemain te fait-il peur ? En ce moment, il y a de quoi des fois. Ressuscité avec Christ, rien, absolument rien, ne pourra te séparer de son amour. Jouis pleinement de ce bienfait maintenant. Vis pour glorifier Dieu, car une destinée glorieuse dans l'éternité t'attend. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, pour finir, que Jésus-Christ, le ressuscité, vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller son visage resplendissant de gloire sur vous et vous accorde sa grâce en ce jour de proclamation de sa victoire sur la mort, qu'il se tourne vers vous, vous apporte sa paix dans ces moments de peur et d'incertitude, car il est celui qui dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Joyeuse Pâques. Que le ressuscité vous bénisse. Amen.